This is the sound of a man who unexpectedly fell into cold water and instinctively is trying to swim hard. This is the sound of the cold water shock making him gasp uncontrollably and breathe in water until he drowns. Whereas this is the sound of a man who fell into cold water and knows how to survive. You have to fight your instinct to swim and just float until the cold water shock has passed and you can control your breathing. This is a safety message from the RNLI. Float to live. Visit respectthewater.com.
Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
RMC.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois, mais...
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot. Gilbert Brébois.
Bonsoir à tous, After est là, bien sûr, comme tous les soirs, nous sommes en direct à la radio sur RMC, en direct à la télé sur RMC Sport News, jusqu'à minuit, messieurs, dames, 3 heures d'After ce soir, bien sûr, avec un programme chargé dans l'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football ne pense pas encore. Kevin Diaz est de retour ce soir, salut Kevin.
Salut, bonsoir à tous.
François Manardo est là, bien sûr, salut François.
Bonsoir, bonsoir les amis.
L'événement ce soir dans l'After, messieurs, ce sont nos clubs de Ligue 1 qui rejouent.
Eh ouais.
Ça y est, c'est reparti, il y a les matchs. 12 clubs de Ligue 1 joués aujourd'hui, les matchs amicaux. Dans quelques instants, vous aurez absolument tous les résultats et tous les détails de ces matchs. D'ailleurs, si vous avez suivi le match de votre équipe, si vous étiez au stade, tu sais, les fameux matchs d'été, tu vas en Bermuda en claquette, quoi, tranquille, voir ton équipe, bah, vous nous appelez, 32-16. On vous attend. Toi, t'es plutôt tombé, hein, avec le claquette.
Oui, enfin, ouais, accessoirement, ouais. Je suis surtout casquette, moi, pour pas avoir un œuf qui cuit sur le crâne. Comme toi, d'ailleurs.
Il y a un truc magique qui s'appelle la crème solaire.
Ah non, mais sur le crâne, non, mais c'est insupportable.
Ah bon ?
Attends, non.
Ah bon, d'accord. Bon, comme tu veux, chacun sa stratégie.
Chacun son truc, ouais.
Également au programme ce soir, l'actu mercato du jour. Il y a quelques petites infos à partager, bien sûr. Et puis, on analysera, vous savez, les fameux bras de fer qui existent entre joueurs et clubs. Bon, dernier en date, Griezmann avec l'Atlético. Tout ça dans les périodes de transfert. Carlo Alberto Broussa sera avec nous, avocat bien connu du milieu du foot. Il a bossé avec Ribéry, avec Laurent Blanc, avec plein d'autres joueurs. Donc, il connaît toutes ces situations par cœur. Il viendra nous décrypter tout ça. Ça va être très intéressant dans une grosse demi-heure. Et puis l'actu de la CAN à la veille des demi-finales. Alain Giresse sera avec nous tout à l'heure aux alentours de 22h30. Et puis la suite de nos équipes type, équipe PIP à la demande générale. Ce soir, c'est l'Algérie. Alors, est-ce qu'il y aura du Ali Bouafia, du Abdel Aliéjon? On verra tout à l'heure. Du Ali Benarbia. Équipe PIP ou équipe type?
Si Ali nous écoute dans l'équipe PIP.
Le problème, c'est que
le problème d'Ali.
Pas mal d'Algériens reprochent à Ali c'est d'avoir pas mal tergiversé avant d'aller en sélection, tu vois.
Oui, mais quand il s'est décidé, c'était une période compliquée.
Exactement. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Ce sera aux alentours de 23h30. Donc, supporters de l'Algérie, préparez vos équipes. On débattra, on confrontera nos équipes ensemble. Le 32-16 est ouvert toute la soirée, bien sûr, pour débattre de tous ces sujets. N'hésitez pas, c'est le numéro magique d'RMC. Si vous voulez débattre avec nous, passez à l'antenne. C'est maintenant, 32-16. Le hashtag RMC Live sur Twitter. Et puis, bien sûr, Direct Studio sur l'appli gratuite RMC Sport. En plus, elle est toute nouvelle. L'appli, elle est magnifique. Alors, vous avez tous les résultats, tous les scores, toute l'actu mercato. Et en plus, en appuyant sur la petite radio en haut à droite, vous pouvez envoyer vos messages directement à l'after. N'hésitez pas. Là, je vois que les derniers messages concernent Alaphilippe. Donc là, on est passé à l'after. Hein, donc vous pouvez envoyer sur Marseille, Lyon, Paris, le mercato. Quoique, je dirais contre Alaphilippe. Au contraire, il nous a régalé.
C'est vrai.
L'après-midi. Et puis tiens, il y a du tennis. Eric Salio est là. Alors, à défaut d'avoir des Français en finale de simple, on a des Français en finale de double. Eric, salut Eric.
Salut Gilbert, salut à tous. Ouais. Et croyez-moi, ce match va marquer peut-être l'histoire parce qu'on est dans finale du double. Donc Nicolas Mahut et Edouard Roger-Vassin opposés à Cabal, Farah, les Colombiens. On est à 2-7 partout, Gilbert.
Oui.
Je vais te donner le score, tu vas comprendre. 7-6, 6-7, 6-7, 7-6.
Ah oui,
et la durée, 4h16. Alors, on a pris tellement de retard que là, le juge-arbitre est venu voir les quatre protagonistes. Il leur a dit, écoutez, il commence à faire sombre. On va mettre le toit. Ça va être beaucoup plus confortable. Le toit, les projecteurs. Et surtout, donc, les Français reviennent de loin parce qu'ils étaient menés 2 manches à 1. Ils viennent d'arracher le tie-break du 4e, 7-5. Et Nicolas Mahut qui n'est pas à un record près, puisqu'il détient évidemment le record du match le plus long de l'histoire, hein, 11h05 sur le court 18. Oui. Et là, il peut battre le record de la finale la plus longue, parce que j'ai consulté les archives, c'est McEnroe et Stich qui avaient gagné ce double en quelle année ? Tiens, j'ai pas l'année, zut. C'était 5h01. Eh ben, je pense qu'ils veulent, ils peuvent l'accrocher.
5h, et là on est à 4h16, tu dis ?
4h16.
Alors, selon mes statistiques,
et en sachant, il en a sachant que maintenant fois... le tie-break, Gilbert, il arrive à 12 jeux partout.
Hein. Ah oui, c'est vrai, il y a un changement de règle à Wimbledon.
Ah oui, ils ont changé la règle.
Ah oui, non, parce qu'ils paniquaient avec Mahut, ils disent pas possible. Oui. On va finir à 35, 36, 34. Ça va pas le faire. Alors, selon mes stats, il n'a pas plu une goutte à Wimbledon cette année. Que se passe-t-il, Eric ?
Faux. Ah. Mais c'était samedi soir, c'était hors compète.
Ah d'accord, il n'y a plus de match, quoi. Bon. Et dis-moi, c'est quoi le prize money quand tu gagnes le double dans un grand chelem ?
Oh, je ne l'ai pas sous le nez, mais je vais regarder.
Il faut que tu nous trouves ça. Hein.
Prochaine intervention. Mais c'est pas mal, crois-moi.
Bah, non, parce que le double, c'est quand même un truc assez étrange. C'est-à-dire que bon, c'est pas le truc qui passionne forcément les foules. Mais ça vaut quand même le coup de le jouer. Quoi.
Ah, sauf à Wimbledon, Gilbert. Parce que là, je peux t'assurer, bon, le stade, il s'est un peu dégarni. Mais je peux te dire que les deux premiers sets, c'était stade comble. C'est une vraie tradition ici. C'est la tradition.
Mais attends, c'est des gens qui sont restés parce qu'ils ont vu la finale d'âme ou c'est des gens qui avaient acheté leur billet pour le double ?
Bah, ils ont acheté le billet pour la journée.
Ah voilà.
C'est un paquet.
Ce qui est encore plus drôle.
Comme la finale d'âme, elle était plutôt décevante. En une heure et demie, c'était bâché.
La finale était un peu décevante. C'est vrai, elle a duré moins d'une heure. Ce qui est drôle, Gilbert, c'est que derrière, t'as un autre match. La finale du double dame. Je sais pas comment ils vont faire.
Ah oui, non, là, ils sont pas bien, là. Bon. Bah, à tout à l'heure, hein, tu nous tiens au courant de ce qui se passe, bien sûr. Allez, on y va sur les matchs amicaux. Alors, bien sûr, si vous avez suivi le match de votre club, le 32-16 est ouvert. Si vous étiez, par exemple, au match entre Lyon et le Servette, si vous étiez à Liège, enfin, serein pour le match entre le Standard de Liège et Strasbourg, appelez-nous 32-16. Ou alors, si vous avez vu le match de Monaco, du jour de Bordeaux, Bordeaux, ils ont joué en Autriche, hein, donc peut-être moins évident. Angie Loata est là. Alors, t'as fait, Angie,
j'ai tout résumé.
Le récapitulatif. Alors, faisons match par match.
Tu veux lequel en premier ? Peut-être l'Olympique Lyonnais ?
Bah ouais, l'Olympique Lyonnais.
L'OL qui a perdu du côté de Bourgoin-Jallieu face effectivement aux Servettes de Genève. Défaite 2-1, but encaissé après seulement 2 minutes de jeu. Ça n'a pas tardé pour les Lyonnais, ils ont eu des difficultés dans ce match. Le but de l'OL, il a été marqué sur pénalty, une faute sur Guiri et un pénalty transformé par Martin Terrier. Lyon qui a expérimenté, qui a commencé à jouer, c'est peut-être ça aussi l'intérêt de ces matchs amicaux.
Ils reviennent d'un stage à Tignes, alors peut-être que physiquement ils sont pas
au top, ils ont joué en 4-3-3, c'est ça que je voulais te dire. Ouais. Ils ont joué en 4-3-3, la philosophie Silvinho, Juninho, on commence un petit peu à la voir. Du côté du, pas de l'anecdotique forcément, mais Yanga Mbiwa a joué. Voilà. Ça fait partie aussi des infos un peu
incroyable,
rigolotes de ce match de l'Olympique Lyonnais.
La charnière, c'était Yanga Mbiwa Andersen.
Ouais. Alors attends, je vais te donner ça si tu veux. Il y a eu du Yanga Mbiwa. Non, Andersen n'a pas joué.
La charnière, ça.
Ça a été plutôt du TT Marcelo Denayer Marsal en défense. Donc Marcelo Denayer beaucoup associé. Et puis il y a un moment dans la partie où il a fait rentrer Yanga Mbiwa.
C'était quand même une forme d'équipe type. Au début du match,
ça y ressemble en tout cas à ce qu'il est possible de mettre en place aujourd'hui pour Silvinho. Ouais, pas de fakir.
Ok.
Et Thiago Mendes a joué ?
Thiago Mendes n'a pas joué.
Ouais. Donc Lyon a perdu contre le Servette. Bon, c'est pas un cadre du championnat suisse, le Servette en plus. Hein.
Non, c'est pas un cadre.
Qui est en D2.
Ouais.
Qu'est-ce que t'as d'autre ?
Ah, j'ai du Monaco, tiens, si tu veux, de l'AS Monaco, qui là aussi, parce que c'est un petit peu le thème de la soirée, et c'est un petit peu ce qui relie tous nos clubs français. Ils sont tous unis en ce moment dans la défaite.
Ils ont perdu. Ouais.
Ils ont perdu aussi, et aussi face à les Suisses, face à Lausanne Sport. Défaite 2-1 aussi. Bosquilla qui a marqué pour l'AS Monaco. Là aussi, hein, il y avait beaucoup de l'AS Monaco a quand même tâtonné un petit peu dans ses compositions d'équipe. On avait quand même des charnières avec Glick et Jemerson. Naldo a aussi un peu joué. Fabregas qui s'installe aussi un petit peu comme un patron dans ce milieu de terrain. Ronny Lopez qui a joué. Voilà, bon, on fait tourner souvent une équipe à peu près type en première période, et puis derrière on enchaîne avec en faisant rentrer des jeunes, etc. Mais défaite 2-1 aussi pour l'AS Monaco.
Après, faudrait savoir, c'est pas facile, hein. Je te pose un peu une colle peut-être. Vas-y. Mais où en sont les clubs suisses par exemple dans cette préparation?
Ouais.
Peut-être qu'ils reprennent avant.
Très souvent, hein, c'est assez global, hein, sur tous les matchs amicaux qu'ont disputé les clubs français aujourd'hui, sauf quand c'était face à des équipes françaises. Ils arrivaient face à des équipes qui avaient déjà au moins 3 matchs de préparation dans les jambes.
Donc avance par rapport au club français.
Donc en avance.
Oui. Il y a des championnats qui reprennent ce week-end. C'est que la Russie, par exemple, reprend ce week-end.
Mais c'est pour ça, je pense que
la Russie reprend.
Oui.
Donc ils ont arrêté de faire un championnat.
Oui, bien sûr, mais ils ont une trêve longue, un peu en mode allemand,
ouais.
Tu vois.
Ouais, ils ont plus le championnat comme avant. Ils ont le championnat comme les autres.
Ils sont mis sur le modèle occidental.
Sur le modèle Europe de l'Ouest.
Jamais 203 parce que l'OGC Nice a perdu contre un club.
Suisse. Bon. L'OGC Nice face à Thun. L'OGC Nice qui a perdu.
Excuse-moi, mais que Nice joue son premier match de l'ère Radcliffe face à une équipe qui s'appelle Thun. Je trouve ça assez comique.
Thun.
Oui, mais on dit Thun en Suisse.
Oui, avec un petit Thun,
c'est H-U-N. Eh oui, monsieur.
Bon, le Suisse, je te le laisse.
Le Suisse.
Plus allemand, je te le laisse. Encore plus.
Le Suisse italien, tu prends.
T'es chinois, oui.
Un petit peu plus, ouais.
En tout cas, contre Thun, ils ont perdu. Eh oui.
Nice, malgré ses thunes, qui a perdu contre Thun 3-1, but de Ganago pour Nice. L'info, peut-être compo, là aussi, ce serait l'entrée en jeu de Khéphren Thuram, qui arrive de Monaco. Voilà, un 11 de départ assez similaire à ce qu'on a vu sur les autres matchs, avec des associations, notamment charnière centrale, Erel Dante. Voilà, ça ressemble un petit peu à ce qu'ils essayent de mettre en place. Souvent, en défense, c'est ce que je constate, hein, j'ai une grande liste avec tous les matchs des clubs français aujourd'hui. On constate quand même qu'en défense, on essaye de blinder, on essaye d'assurer un petit peu ce qu'il va y avoir derrière dans la saison, et puis qu'après on se laisse un petit peu plus de liberté du côté de l'attaque.
Logique, non ?
Bon, là tu nous as annoncé que des défaites. T'as une victoire ?
Non, j'ai un match nul si tu veux. J'ai une victoire.
Dans 12 matchs ?
J'ai un match nul.
Attends.
Ça vient. Il y a quand même une petite victoire. Je vais te la retrouver tout de suite, mais alors c'est pas super glorieux, même si je sais qu'il y a des amoureux de la Coupe de France et donc de l'épopée des Herbiers autour de la table. Angers qui a battu les Herbiers. 3-1.
Non, excuse-moi, t'as oublié un match.
Classe, quand même. Oui, attends, bien sûr.
Le plus grand club.
Je réserve pour la fin.
Attends. Donc Angers.
T'inquiète pas, je vais te mettre en valeur.
T'as les buteurs d'Angers.
Strasbourg. Ouais, j'ai les buteurs d'Angers. Kanga, Aka, Mbok, un jeune, et puis Angelo Fulgini. Va falloir prendre aussi le leadership au niveau de l'attaque. Le départ de Flavien Tay, Fulgini qui a marqué ce soir face aux Herbiers. Victoire 3-1. On parlait tout à l'heure des clubs qui sont en avance dans leur préparation, des adversaires des clubs français qui sont en avance dans leur préparation. Non, pas tout de suite Strasbourg. T'inquiète pas, ça arrive.
Ils sont en avance dans leur préparation.
Ils sont en avance dans leur préparation. Mais le Stade Rennais, qui a fait match nul 0-0 contre un club qui est très en avance dans sa préparation, Celtic Glasgow, qui a même joué un premier tour de qualification en Champions League.
Ah donc, oui, là,
eux,
là.
Ils ont intercalé, Celtic Glasgow a intercalé un match amical face au Stade Rennais, entre un aller et un retour de
Rennes, ils ont
Champions
même, on voit le tweet qu'ils ont fait sur RMC sur News, ils ont même tweeté, on a fait 0-0, mais attention, contre un club qui disputait son 5e match de la saison, dont un tour préliminaire de Ligue des Champions mardi dernier et tout. Donc,
C'est bien, ouais.
C'est glorieux, quoi.
Donc, voilà,
0-0.
C'est
pas
bien.
Pas mal.
C'est bien. Ouais,
c'est pas mal du tout. Il me reste quoi ? Allez, Toulouse qui a gagné. Toulouse qui a gagné face à Ajaccio.
Ah, bah voilà une victoire.
Pour vous la faire courte, hein, les clubs français, sauf Strasbourg. Les clubs français, sauf Strasbourg, ont gagné face à des équipes françaises de division inférieure. Voilà. Toulouse qui a gagné effectivement contre Ajaccio. Un but, c'est timide quand même, un but de Bostock sur un coup franc. Le premier match de William Vainqueur au milieu de terrain. Voilà, formation compo. William Vainqueur prêté, Rennais dans la cage. Moreira, Shoji, Diakité, Diarra. Bon, ça se met un petit peu en place du côté de Toulouse, mais c'est pas encore très très clair. Hein. Si on regarde les compositions d'équipe, on n'arrive pas trop à savoir exactement à quoi ressemble cette équipe dans le futur et dans la prochaine saison de Ligue 1. On a parlé de Toulouse, on a parlé de Rennes, on a parlé de Lyon, on a parlé de Nice. Bordeaux, grosse défaite, très grosse défaite, la plus grosse défaite d'un club français aujourd'hui. Bordeaux, défaite 3-0 face à un obscur club autrichien. 3-0.
Ouais, Adli a marqué, non ?
3-0, non, Adli a pas marqué.
Bon, d'accord, bon, j'avais 3. Hein. Bon, bah écoute.
Alors après, peut-être qu'il y a un but à la 93e minute qui m'a échappé. Je vais vérifier ça et puis je te dirai. La dernière fois que je t'ai contredit, tu avais raison. Donc je vais faire très attention ce coup-ci. Deux barres transversales de Jimmy Briand. Voilà, bon, ils ont essayé de se montrer un petit peu. Apparemment, d'après les échos, parce qu'évidemment, je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé ce match, mais d'après les échos, Costil et Jimmy Briand ont été quand même à la hauteur, ont été dans le leadership. C'est ce qu'on attend d'eux.
Costil a été à la hauteur en prenant 3 buts.
En prenant 3 buts malgré tout, ouais.
Okay.
Apparemment, ils ont quand même montré de belles choses. Il a été à la hauteur, oui. Bon, c'est une hauteur.
À la hauteur, ouais.
Un petit c'est bien 3. Hein.
À la hauteur du poteau de corner.
3-1. Adli a marqué à la fin.
Un but d'Adli pour Bordeaux, ouais.
Allez, ça marche. 3-1.
Encore autre chose ?
pour Bordeaux. Angers, Dijon, Auxerre, victoire dijonnaise face à Auxerre. Deux buts de Baba Neymar, Jules Keïta qui a marqué deux buts. Là aussi, hein, Balmont, capitaine, Amalfitano. Bon, on essaye de mettre les tauliers quand même en place dans les compos d'équipe. Et puis Saint-Étienne, Clermont, un but partout. Denis Bouanga qui a marqué pour l'AS Saint-Étienne. Une jolie frappe enroulée à 45e minute de jeu. Compo stéphanoise avec pas mal de recrues, avec Palencia, avec Moukoudi, avec Zaïdou Youssouf qui est arrivé de Bordeaux au milieu de terrain, et puis donc avec Denis Bouanga qui a marqué. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Si, un mot de Lille, stade de Reims. Lille-Reims, ça a donné un partout. But de Loïc Rémy pour le LOSC et de Nolan Mbemba pour le stade de Reims.
Eh ben nickel.
Eh ben voilà.
Bon voilà, tu nous as fait le tour. Ah si, puis alors Strasbourg a gagné contre le Standard de Liège. Puis
Strasbourg,
pardon,
du coup, j'en ai pas parlé.
Voilà, mince. Voilà. On avait
2-0.
Strasbourg qui a gagné 2-0 contre le Standard de Liège, deux buts d'Ajorc, un sur penalty pour une faute sur une recrue, Bellegarde arrivée de Lens, le milieu de terrain, et puis un autre dans le jeu pour Ludo à Ajorc. Donc voilà, une compo qui ressemble quand même aussi à quelque chose d'assez cohérent déjà, avec Matsels dans la cage, Lala, Koné, Mitrovic, Djikou, Lewis Carroll pour la défense, Bellegarde, Fofana, Aliénor au milieu de terrain, et Ajorc et Nuno da Costa pour l'attaque du Racing.
Rappelle-nous ton...
Et Jonas Martin qui a été ménagé parce qu'il s'est fait mal à l'entraînement hier. Oui.
Le match de Coupe d'Europe.
Ce sera le match aller le 25 sur RMC Sport 1, contre soit le Maccabi Haïfa à Strasbourg, qui a gagné 2-0 à l'aller contre un club slovène qui s'appelle Mura.
Musa ?
Mura. M-U-R-A. Voilà.
Bon, en tout cas, le Racing Club de Strasbourg qui est quand même en avance dans sa préparation.
Trois matchs de préparation, trois victoires.
C'est bien.
On va en débattre, justement. Bouge pas, Kevin, parce que est-ce que finalement ces scores sont anecdotiques ou est-ce qu'ils signifient déjà quelque chose dans une saison? On va y revenir dans quelques instants. Angie, merci beaucoup. Dans quelques secondes, notre débat sur les matchs amicaux avec vous au 32-16. A tout de suite sur RMC dans l'After.
RMC, l'After Foot, Gilbert Bribois.
21h17, l'after est là, jusqu'à minuit bien sûr, François Manardo, Kevin Diaz. Notre invité est déjà arrivé, donc comme on est des gens quand même polis, nous l'accueillons tout de suite. Carlo Alberto Broussa, avocat, et qui est installé dans le monde du foot depuis un bon moment maintenant. Bonsoir maître.
Bonsoir monsieur Bouba.
Alors, on va évoquer avec vous plein de sujets dans quelques minutes, mais d'abord on finit nous notre débat sur les matchs amicaux là. On va dans quelques instants accueillir Anthony et Sofiane qui ont vu le match de Lyon. Kevin et François, est-ce que ces résultats d'avant-saison ont une signification ou pas? J'ai un petit message là, regarde, tu vois, qui arrive tout de suite sur Direct Studio, qui on me dit ah ben voilà, hier, Marseille perd contre une équipe de Détroit, c'est la cata, et puis là, Lyon perd, et puis c'est pas si grave.
Non, pour moi, on va pas dire que c'est grave, parce que bien sûr, les matchs amicaux, comme une saison, ça juge à la fin de cette période de matchs amicaux, donc on va dire le dernier week-end avant le début du championnat, donc tout début août. Mais en tout cas, une chose est sûre, pour moi en plus, j'appréciais beaucoup hein, ces périodes. On le parlait, hein, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours. C'est l'été, il fait beau, les supporters sont contents de revoir les joueurs sont contents de retrouver les pelouses.
T'appréciais la préparation foncière?
Non, bah après moi j'ai joué dans un pays, c'était le football hein, avec et sans ballon, il y avait pas beaucoup de courses sans ballon pour le coup aux Pays-Bas, mais au Portugal non plus d'ailleurs. Mais bon, c'est vrai que c'est dur. On travaille beaucoup, on court, les 15-15, les 30-30, c'est pas ce qu'on préfère. Mais je veux dire les matchs amicaux, on joue souvent contre des belles équipes, souvent contre des équipes étrangères, et donc c'est vrai que c'est intéressant quand même. Et il y a une chose qui est sûre. Je vois là des images de Juninho et de Silvinho. Les entraîneurs, ils veulent gagner tous les matchs. Et même les matchs amicaux. Surtout les matchs amicaux en début de saison. Ils préfèrent un entraînement moyen le mardi et gagner le match amical du mercredi. Parce que c'est une opposition contre des adversaires. À l'entraînement, on est quand même coéquipier. On essaie de pas trop mettre le pied. Et les matchs amicaux ont bien sûr une signification. Parce que je peux vous dire que je connais pas beaucoup d'équipes qui perdent leurs 4 matchs amicaux ou qui font 3 défaites et 2 nuls et qui gagnent le premier match du championnat. Ça peut arriver.
Ah, donc pour toi? Les victoires dans les amicaux de pré-saison préfigurent de ce qui va se passer sur les deux temps premières journées de championnat.
C'est souvent une dynamique qui, en tout cas moi, mon expérience personnelle, me l'a prouvé.
Plus ou moins. Oui, plus ou moins. Quand tu dis les 2-3 premières journées, il ne faut pas aller plus loin. Parce que je me souviens, il y a 2 ans, Bielsa avait quasiment gagné tous ses matchs amicaux avec le LOSC. Il gagne le premier match contre Nantes, à domicile, de manière assez brillante d'ailleurs. Et ensuite, le match, si Gilbert, tu t'en souviens, à la
maison. Ah oui, le fameux match.
Et là, ça part en sucette.
Son gardien prend un carton rouge.
Non, moi, je trouve que ces matchs de préparation, c'est un peu une usine à gaz, principalement pour les entraîneurs, parce que, outre le fait que ton équipe est en phase de préparation, mais tu te retrouves aussi avec des effectifs où tu as des joueurs, alors des joueurs qui viennent d'arriver, qui n'ont pas encore de repères, mais tu as aussi des joueurs qui veulent partir et qui se montrent pas forcément sous leur meilleur jour. Ça dépend un petit peu de leur situation en termes de par rapport au marché. Après, tu as un aspect physique, c'est qu'il y a aussi des coachs qui dealent avec l'adversaire. Bon, pas à fond, parce que tu veux vraiment absolument pas, enfin, jamais se blesser. Mais dans les matchs de préparation, ça peut te foutre doublement les boules. Et après, il y a aussi des entraîneurs qui tâtonnent, parce qu'ils n'ont pas encore les idées claires. Alors, c'est peut-être pas les meilleurs entraîneurs, mais ceux qui ont une vision assez arrêtée de ce qu'ils veulent faire avec l'effectif s'ils peuvent avoir à disposition le plus tôt possible. Ce qui est d'ailleurs plutôt le cas de Lyon, là, qu'on voit s'entraîner. Tant mieux, mais quand je prends le cas de l'OGC Nice, par exemple, qui est en train de changer de patron avec un passage de témoin, et on le sait que ça va être très compliqué, peut-être une situation qui va se décanter en termes d'effectifs mi-août dans le meilleur des cas, je me mets dans la tête deux secondes seulement, hein, de Pat Vira, ça va être compliqué ces matchs de préparation, parce qu'il faut quand même mettre quelque chose en place, et on l'a dit d'abord défensivement, mais tu sais pas si ces joueurs tu vas les prêter, tu vas les vendre, ceux que tu peux encore faire venir et que tu vas mettre plutôt titulaire. C'est vraiment une usine à gaz.
Oui, mais c'est quand même quelque chose qui, comme je disais... Alors,
après, bien sûr... pardon, je te rejoins, Kevin, excuse-moi, je te rejoins complètement sur une chose, en revanche, c'est que la dynamique a intérêt de s'installer assez vite, évidemment de manière positive, parce que si tu commences à enchaîner les défaites, non ça... seulement tu as les problèmes que j'évoquais, mais en plus, tu as une spirale négative qui peut s'installer.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que, donc, comme je disais, la préparation, c'est agréable. Les joueurs apprennent à se connaître. On mange souvent ensemble quand il y a deux entraînements, oui. La collation le midi, on découvre les partenaires, les nouveaux coéquipiers, on en retrouve peut-être qu'on a déjà croisé dans tel ou tel club. Donc, la semaine, c'est sympa. Mais si vous perdez le premier match amical, il y a les premières critiques des supporters, voire même de la direction, du staff, mais également entre joueurs. Ouais, mais t'as vu, lui, à l'entraînement, il est bon, mais c'est pas un joueur de match, parce qu'après, t'as vu, là, il a pris le bouillon contre un mec de 18 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà pourquoi gagner, au moins ne pas perdre les matchs amicaux, pour le coup, c'est toujours bien.
Alors tiens, on a Anthony et Sofiane qui sont là au 32-16 avec nous, qui sont supporters lyonnais. Hein, donc le match de Lyon a d'ailleurs été diffusé sur Canal cet après-midi. Donc faut bien s'occuper. Hein, donc on diffuse tous les matchs, même les matchs amicaux. Anthony, bonsoir.
Ouais, bonsoir.
Bonsoir Anthony.
Bon, alors qu'est-ce que t'as pensé du match, toi, malgré la défaite? Alors, juste précision quand même de Dobby là sur Direct Studio, il nous dit: soyons honnêtes, Lyon a repris il y a 10 jours là où le Servette jouait déjà son 5e match de prépa et commencera son championnat dans moins de 10 jours.
Oui, c'est exactement ça. Et en plus, Lyon a fait sort de 5 jours à Tignes où on sait très bien que c'est les 5 jours les plus durs de la phase de la préparation de l'OL depuis des années et des années. Même si cette année, si Lyon a un peu changé la donne avec beaucoup plus de jeux avec ballon. Après aussi, ce qu'il faut regarder, moi, je suis pas du tout inquiet. Il faut regarder les compositions. Première mi-temps, deuxième mi-temps, il y a deux 11 complètement différents. On a vu des Kitala, des Thomas, des joueurs qu'on connaissait pas du tout.
Il y a énormément d'attentes.
Et physiquement, on sentait que c'était très difficile. Mais après, enfin, je suis d'accord avec vous que moi, les matchs amicaux, je commence à en tenir compte sur les deux derniers. Parce que sur les deux derniers, t'as à peu près ton 11 type à un ou deux joueurs près et t'arrives à ton premier match. Donc là, t'es censé être quasiment prêt physiquement. Les premiers, j'y fais jamais trop attention. Et aujourd'hui, autant la première mi-temps a vraiment pas été bonne. Pourtant, ce qui est paradoxal, c'est que c'était le 11 où il y avait le plus de titulaires. Il y avait Marçal, Lopez, Marcelo, je crois qu'il y en avait 4 qui sont quasiment des titulaires, qui devraient être titulaires cette année. Première mi-temps pas très bonne, et la deuxième mi-temps était bien meilleure, et surtout, je sais pas si vous avez dû suivre un peu les interviews de Sylvino, il a beaucoup parlé du pressing à la perte de balle, et il y avait 2-0 pour le Servette à la mi-temps, et c'était totalement mérité d'ailleurs. Et en deuxième mi-temps, on a vraiment vu ces phases où Lyon allait chercher très haut, récupérer le ballon beaucoup plus rapidement. Lyon aurait vraiment pu revenir à 2-2 et c'était intéressant.
Maintenant, après, Tony, on est d'accord que nous, on n'a pas dit que c'était catastrophique de perdre un match amical.
Ah non, non, non.
On parlait bien de la série de matchs amicaux de voir, comme tu as dit, sur 3-4 matchs. Maintenant, tu me parlais du Servette de Genève qui était en avance sur sa préparation. Gilbert, il y a une autre chose que je voudrais dire, et je pense que tous les joueurs qui ont été professionnels vont être d'accord avec moi. Quand vous êtes le Servette
du monde.
Quand vous êtes le Servette de Genève et que vous faites un match de préparation contre l'Olympique Lyonnais, à votre avis, vous pensez à quoi?
Bah, aller taper.
Voilà. Elle est tapée, pourquoi aussi? Parce que vous vous dites...
Faut se faire voir.
Exactement, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont déjà été recrutés sur un match amical. Moi, ça a failli être mon cas. À chaque fois qu'on jouait, nous, moi j'étais en Ligue 2, à chaque fois que je jouais contre une Ligue 1 en match amical, je peux vous dire que c'était l'un des matchs du début de saison. Parce que valait mieux faire un gros match contre la Ligue 1 en match amical que trois bons matchs en D2.
On en revient à un moment donné à ce que j'évoquais sur ces joueurs.
Ça, c'est typique Kevin Diaz, je pense qu'à sa gueule. Tu vois, il voulait être bon en match amical contre une Ligue 1.
Non, mais si,
ça
marchait. Kevin, quand tu fais un match amical, mais que tu as signé ton contrat il y a deux semaines, évidemment, parce que tous les joueurs pro
de Genève. Je pense que les conditions salariales, c'est pas.
Moi, j'ai une question pour Anthony. Anthony,
tu sais, c'est pourquoi il est là, parce qu'il a été bon au match de l'after. Sinon, on ne le prenait pas cet été.
On m'a pas dit qu'il a été bon au match de l'after. On m'a dit que c'était le meilleur joueur au match.
Il a mis un triplé, le gars.
Ah, ça, je le savais.
Il choisit ses matchs.
Anthony, où est-ce que s'est disputée la rencontre?
Bourgoin-Jallieu.
Bon, Bourgoin, un petit détail, parce que je pense qu'ils sont redescendus de Tignes hier.
C'est exactement ça.
Tignes, c'est quand même assez haut. Donc là aussi.
Arrête un peu.
Si. Non, quand tu fais 24 heures et en préparation physique. Non. La préparation physique, moi, à Tignes, je l'ai pas faite. Mais j'ai.
Argument non recevable.
Si.
Refusé.
Bah, tiens, on va demander à tous les joueurs professionnels. Quand tu fais comme ça en 24 heures, je crois que c'est à 1007 ou 1008.
Quand tu vas en vacances au ski et que tu redescends, tu fais quoi?
Je le fous, là, que tu discutes.
Non, mais
je te dis pas que tu te balades dans la rue et que tu t'évanouis. C'est un match de foot. D'abord, ils sont en préparation, ça m'étonne pas.
J'aimerais bien savoir ce qu'il en
pense,
Sylvinho, de ça.
J'ai pas vu le match, mais il peut y en avoir certains qui crachent.
Anthony, un truc à rajouter?
Non. Moi, après, enfin, cet argument, je sais pas si, j'ai pas expérimenté. Mais ce qui est clair, c'est que physiquement, le Servette était largement plus près que l'OL. Et puis en plus, je voulais rajouter ce qu'un d'entre vous disait, je sais plus lequel, désolé. Mais déjà, c'est clair, sur le plan individuel, ils ont envie de se montrer, mais sur le plan collectif. Taper l'OL, match amical ou pas match amical, le Servette, ils sont hyper contents d'avoir tapé l'OL. Pour eux, c'est pas un match amical de prépa. Pour eux, c'est un match limite Ligue des Champions, on se régale. Et si on tape l'OL, limite, ça sera un des plus beaux résultats de notre saison, même si c'est qu'un match amical. Donc on sentait que même au niveau athlétique, intensité, que les deux équipes étaient pas du tout dans le même état d'esprit.
Tiens, Anthony, tu sais que Jean-Michel Aulas nous a régalé quand il était à la présentation, à la conférence de presse de la présentation de Sylvinho, avec son anglais fluide.
Magnifique.
En fait, il a remis ça hier. Présentation hier d'Andersen. Écoutez Jean-Michel Aulas.
Je vais poser la première question à Joachim. Are you happy to be here? And what Lyon,
Alors, are you happy to be here? Il avait fait la même pour Sylvinho. Par contre, le what Olympique Lyonnais, là, ça nécessite quelques cours d'anglais. François, si tu veux t'en occuper, toi qui es polyglotte.
Ouais, je préférerais m'occuper de son compte Twitter plutôt que de ses cours d'anglais.
What Olympique Lyonnais, trop fort. Tiens, puis demain, il y a l'OM qui joue contre les Glasgow Rangers. Hein, ce sera le gros match amical de demain. Allez, dans quelques instants, avec Maître Broussa, on parle du mercato. Et puis, on va se plonger dans les arcanes de ce mercato, les bras de fer, club, joueur. Alors tout ça, il y a plein de questions à poser à Carlo Alberto Brouzer dans quelques secondes dans l'after. À tout de suite.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
L'after est là jusqu'à minuit, bien sûr. On aura Alain Giresse tout à l'heure avec nous, je le rappelle, dans une bonne heure pour parler des finales de la Coupe d'Afrique, bien sûr. Toutes les dernières infos, c'est demain, hein, les demi-finales de la CAN. On reparlera Mercato un petit peu plus tard également. On parlera aussi, si on a le temps, de la réforme de la Ligue des Champions, puisque la Fédé française a déposé sa proposition de réforme. On aura l'occasion d'y revenir. Kevin est là, François est là, et donc Maître Broussa avec nous, avocat. Alors déjà... Faut nous expliquer comment vous êtes arrivé dans le monde du foot, parce que vous avez une longue carrière d'avocat, parce que je me suis un peu renseigné quand même avant que vous arriviez. Vous avez bossé dans pas mal de domaines avant de toucher au football. Comment vous êtes arrivé à collaborer avec des footballeurs et des entraîneurs?
Je suis arrivé d'abord par la défiscalisation, c'est-à-dire que les footballeurs ont tenté de valoriser, capitaliser leur travail, investissent dans des biens immobiliers, et parfois ce ne sont pas toujours de bons investissements. Donc j'ai commencé à traiter les problèmes de défiscalisation de Zinedine Zidane, de Ribéry et d'autres, à travers après l'approche qui était celle des agents qui cherchent toujours à protéger un peu leur poulain, Et c'était le cas à travers Alain Migliaccio et Jean-Pierre Bernès qui m'ont mis les pieds à l'étrier.
Donc c'est, en fait, ce sont les agents qui viennent vers vous pour vos compétences d'avocat et pour vous associer, en fait, éventuellement à une discussion entre club et joueur.
À l'époque,
quoi.
C'était avant tout pour résoudre des problèmes de défiscalisation, c'est-à-dire de non-paiement de loyer, etc. Et après, je me suis fait prendre au jeu aussi parce que c'est quand même très agréable de vivre un peu dans ce monde. Mmh. Et j'ai aimé ça et je suis passé, j'ai franchi des paliers. C'est-à-dire au début, c'était des négociations et après, j'ai appris parce que les agences sont des personnages, surtout des gens comme Alain Migliaccio, comme Jean-Pierre Bernès, sont quand même des
cadors du milieu, quoi. Voilà.
Et j'ai appris beaucoup sur la manière de négocier, de traiter. Et après, j'ai apporté ma formation et ma connaissance du droit pour compléter leur connaissance technique en tant qu'agent.
Vous bossez aussi à l'international, forcément, quand vous
êtes
avec ces joueurs comme ça. Vu votre nom, vous êtes d'origine italienne ?
Je suis d'origine italienne, mais depuis 35 ans en France. Mais je garde toujours cet accent parce qu'à force de parler l'italien, l'anglais, un peu l'espagnol, le portugais, parce qu'effectivement, j'ai fait quelques voyages en Europe pour les négociations.
Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se passer dans une négociation avec un grand club ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se passer d'un avocat ou pas ?
C'est une très bonne question. Je pense que aujourd'hui, on ne doit pas se passer d'un avocat. C'est-à-dire que c'est quasiment une obligation. Pourquoi ? Parce que la complexité du système financier, économique et juridique nécessite l'apport d'un avocat. Avant, l'agent, il y avait une sorte de facilité. Il n'y a pas eu beaucoup de procès dans le passé. Si on prend, moi, je fais pas mal d'histoires du droit en matière de sportive, et vous prenez, c'était, comme on dit, il panisport qui s'élève en famille. C'est le linge sale, on l'élève en famille. On n'emmenait pas ça sur la place publique, on réglait les problèmes à travers des médiations, etc. Aujourd'hui,
oui,
on
a le fameux, on s'est tapé dans la main et puis c'est réglé.
Absolument.
Quoi.
Ouais. C'était comme ça. Ouais. C'était comme ça. Alors qu'aujourd'hui, vous prenez le fignolage des clauses. J'ai participé quand même à quelques contrats. Je rappelle que quand j'ai l'avocat de Laurent Blanc, j'ai travaillé avec Jean-Pierre Bernès pour l'arrivée de Laurent au PSG, son départ, etc. Ce sont des dossiers qui sont complexes.
Belle négociation, le départ de Laurent.
Bravo. Oui, oui. Bravo.
L'arrivée de Laurent a été quand même quelque chose d'assez extraordinaire parce que là, c'est vraiment un travail entre l'agent et l'avocat. Pourquoi ? Parce que personne n'avait parié un copec sur la possibilité que Laurent devienne un jour l'entraîneur du PSG. Il était en 4e, 5e position. Et puis, c'est quand même Jean-Pierre Bernès qui arrive à faire passer le message des qualités de Laurent comme entraîneur. Et après, moi, j'apportais ma petite sève en termes de contrat, parce que le contrat était quand même pas mauvais, parce que il est quand même resté quelques temps et il est parti, comme vous le savez.
Bien négocié.
Et est-ce que... Bien renégocié même.
Est-ce que d'emblée, maître, ça a été difficile ou assez simple de trouver votre place par rapport au rôle de l'agent? Est-ce qu'au départ, vous avez eu le sentiment d'être un peu dans l'ombre, voire un peu à l'écart, et puis petit à petit, vous parliez d'avoir franchi les paliers, rentrer un peu plus dans la lumière, parce que vous l'avez dit vous-même, c'est agréable, parce qu'il y a beaucoup d'argent, mais il y a aussi beaucoup de lumière.
Je suis absolument d'accord avec vous, et là aussi, c'est une bonne considération. Vous savez, les choses ont changé. En 2011, une loi a permis aux avocats de devenir mandataires sportifs. Vous saviez qu'il y avait des avocats qui étaient dans l'ombre, qui faisaient des agents un peu cachés. C'était une filouterie d'agents, utilisant un terme un peu grossier. Et en 2011, on introduit cette réforme qui permet aux avocats d'être des agents. On n'a pas voulu utiliser le mot agent, mais on est des mandataires.
Sans avoir la licence.
Nous, on n'a pas besoin de passer l'examen. C'est-à-dire que les connaissances du droit de l'avocat suffisent pour franchir. Et je veux dire, c'est une simple déclaration qu'est faite à votre bâtonnier. Vous dites, je déclare être mandataire sportif. Donc, c'est même pas un acte formel, un passage d'examen. Et à partir de ce moment-là, les avocats se sont trouvés confrontés à une concurrence avec les agents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, il y a une vraie situation concurrentielle. D'ailleurs, il y a une augmentation importante de nombre d'avocats qui sont déclarés mandataires sportifs, qui ont plus ou moins du succès, parce que la situation est compliquée, parce que vous le savez aussi bien que moi. En 2015, la FIFA a pris un règlement qui a abrogé l'obligation de la licence.
Mais c'est ça, en fait.
Là, il y a une situation très compliquée. Vous avez des pays où le règlement a été adopté, y compris sur un plan légal, parce que je vous rappelle que nous avons deux systèmes, un système normatif sportif, un système normatif légal et étatique. Et les deux doivent vivre de manière parallèle. Or, en France, nous n'avons pas abrogé les règles du code du sport sur le fait qu'en France, pour être agent, il faut passer un examen d'État. qu'un examen d'État, un
examen FFF.
Organisé FFF, mais on n'a pas un examen d'État parce que c'est une reconnaissance légale. Et de l'autre côté, vous avez des avocats qui peuvent se déclarer mandataires sportifs, donc aucun examen. Et de l'autre côté, vous avez, en dehors des frontières françaises, des gens qui exercent l'activité d'agent sans avoir fait aucun examen, c'est-à-dire en disant simplement, je me déclare, c'est, vous savez, un formulaire annexé au règlement de lequel vous le remplissez, personne physique ou morale. Donc là, on est dans une situation d'une extrême complexité, d'une concurrence déloyale incroyable. Pourquoi ? Parce qu'en France, nous avons des normes strictes, sérieuses. La DGNC, en termes de contrôle même des agents, etc. D'ailleurs, DGNC a ouvert une enquête sur vis-à-vis, parce qu'effectivement, il y a quand même des situations compliquées. Mais aujourd'hui, il y a une cacophonie réglementaire en termes de l'activité d'agent qui crée une situation d'une extrême complexité dans le cadre des transferts de joueurs.
Vous disiez qu'il y a, on va dire, des frictions entre certains agents et certains avocats.
C'est, bien sûr.
Voilà. C'est aussi, je crois pas me tromper si je dis que c'est aussi parce qu'aujourd'hui, les entourages des joueurs représentent de plus en plus, certains joueurs sans passer par un agent et ensuite, par contre, se rapprochent d'un avocat pour tout ce qui est juridique.
Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, on arrive aujourd'hui, à travers même l'abrogation, le règlement a joué quelque chose de psychologique, en disant, de toute façon, à partir du moment que le règlement a dit qu'il n'y avait plus besoin de licence, pour quelle raison nous devons aller payer 10% de commission à un agent, pour quel boulot, utilisant un terme grossier. Donc au fond, les parents, la maman, vous savez très bien, vous prenez le cas de Rabiot, c'est sa maman qui se déclare agent. Alors, si on prend la loi en sens strict du terme, pour être agent, vous devez passer un examen. Il s'est même pénalement sanctionné. Alors que les journalistes, les journaux, même écrivent en permanence, on a parlé d'ailleurs, en Italie, lors de l'arrivée, c'était la maman qui avait négocié comme agent de son fils accompagné d'un avocat.
Mais en Italie, on peut le faire.
En Italie, on peut le faire. En Italie, on peut le faire. Pas en France.
Donc, si le transfert est entre la France et l'Italie, c'est quel droit qui prévaut ?
C'est pour cette raison que je suis en train de vous dire que là, il y a une situation. Personnellement, j'ai une vision très claire d'une illégalité formelle dès lors que ça touche le territoire français. Ce sont les règles d'ordre public française qui doivent s'appliquer. Okay. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui une situation de concurrence déloyale gravissime au détriment d'une qualité d'agent. Je ne parle pas que de Bernès, je parle de tout, même des jeunes agents que je connais. Ça m'arrive de donner des cours à l'école des agents, des garçons, et des jeunes filles qui se battent pour ce métier et le font sérieusement.
Ok.
Bon, moi par rapport à cette
une question, après on fera une pause.
Oui, François. Maître. Moi par rapport à la situation que vous décrivez, bon, c'est extrêmement difficile, mais je plaindrai personne parce que c'est une jungle et il y a quand même beaucoup d'argent pour les plus malins et ceux qui ont le meilleur réseau.
Enfin, les plus malins, les meilleurs plutôt, parce que.
Ouais, enfin, ça fait partie plutôt... les bons agents. Ils sont souvent assez malins. Ouais,
oui, mais est-ce qu'ils sont malins parce qu'ils sont bons ou est-ce qu'ils sont bons parce qu'ils sont malins?
Les deux. Mais non, mais moi, ma question, c'est plutôt sur l'évolution. Depuis que vous avez commencé à travailler avec des sportifs, des footballeurs, principalement, l'évolution que vous avez constatée dans les négociations, est-ce qu'il y a encore de nouvelles choses qui sont arrivées, non pas simplement au niveau juridique, mais dans la relation avec les joueurs en plus de haut niveau, même les entraîneurs? Voilà, qu'est-ce que vous avez constaté comme nouveauté?
Avant de vous laisser répondre, dans la nouveauté, je pense qu'il y a quand même les différents intermédiaires, les fameux intermédiaires, non? On avait moins avant.
La réponse est très simple. Aujourd'hui, il y a une disparition progressive de l'agent individuel, etc., pour la construction d'un ensemble de personnes autour d'un joueur ou d'un entraîneur, mais parlons d'un joueur, qui fait que ce joueur est devenu une sorte d'usine.
Ouais.
Et l'usine inclut les conseillers, les consultants, les conseillers juridiques, les conseillers fiscaux, parce que quand on parle quand même de chiffres, vous prenez une PME française avec 10, 15 salariés qui fait 2, 3 millions de chiffre d'affaires, et quand vous avez un joueur de football qui gagne 10 millions d'euros, vous comprenez tout de suite qu'à la limite, qu'il puisse y avoir 10 ou 15 personnes autour de lui pour le faire vivre, ce n'est pas une chose choquante en tant que telle, parce que je le dis moi-même à mes joueurs, aux joueurs que j'assiste. Vous êtes des entreprises. C'est-à-dire que vous devez raisonner comme des entreprises. Vous êtes la nature, le capital, le travail uni, et vous avez besoin qu'on vous accompagne parce que vous n'êtes pas, je dirais, vous êtes exposé au danger. Si vous prenez le cas de Neymar...
Le terme d'entreprise...
Attends, François, il faut qu'on fasse une pause. On va continuer le débat, c'est intéressant. On va ensuite vriller vers ce qui se passe dans l'actu de ces derniers jours, c'est-à-dire ces joueurs qui font les bras de fer avec les clubs. Parce que là, j'imagine qu'il doit y avoir quelques avocats quand même qui donnent des conseils sur ce qu'il faut faire.
Moins malin.
Mais d'abord, un point sur le double à Wimbledon, Eric Salio.
Ouais, 4h40. 4h38, parlons de jeu dans
il
cette
cramé,
finale absolument incroyable entre Nicolas Mahut, Edouard Roger Vasselin et Kabal Farah. Et malheureusement, les Colombiens se sont détachés dans cette cinquième manche décisive puisqu'ils mènent 3-1 et peut-être 4-1 puisqu'il y a 40-15. Les sauver la première, 40-30, 3-1, 40-30 pour les Sud-Américains. C'est Edouard Roger Vasselin qui a coincé, craqué sur sa mise en jeu il y a quelques secondes. Je rappelle que ce match se déroule dans des conditions maintenant de nocturne puisque le toit a été déroulé et on joue à la lumière des projecteurs. Et malheureusement, les Français sont dans le dur.
À tout de suite pour la fin de ce match avec Carlo Alberto Brusa, avocat donc dans le monde du foot. On se retrouve dans quelques instants dans l'after.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Kevin Diaz est là, François Pardo est là et Maître Broussa, donc avocat qui travaille dans le monde du foot depuis maintenant un moment avec des gens prestigieux. Hein. On a parlé de Blanc, de Ribéry et d'autres. On va y revenir.
Le sélectionneur actuel aussi,
bien sûr. J'ai un petit tweet pour toi, tiens, Arnaud, qui lui dit « Kevin a raison concernant les matchs amicaux. Cristiano aurait-il été recruté par United s'il n'y avait pas eu le match amical Sporting United où donc il avait été excellent ?»
Super anecdote. Voilà. Je pense pas.
Bah tu vois, bon, tu avais raison. Oui, vous bossez avec Didier Deschamps.
Oui, absolument.
D'accord. Donc.
J'ai travaillé lors du départ de Didier de Marseille, son arrivée hasardeuse à l'équipe de France, parce que contrairement à ce qu'on a dit, jamais il n'a jamais été question que Didier Deschamps ait piqué la place à Laurent Blanc. Laurent Blanc il était limogé ou parti ou disons ce terme-là, et il y avait un vrai creux qui était le fait que Noël Le Graët avait préféré dire ok, je stoppe avec Laurent. Et il avait Arsène Wenger dans le départ de Didier Deschamps et le départ de Marseille qui n'était pas parce qu'il avait encore un an de contrat, ça s'est fait parce que les choses n'allaient plus.
Ça s'est réglé assez vite quand même. Hein,
ça s'est réglé assez vite. Non. Je peux dire, j'ai le vécu. Je ne sais pas réglé assez vite. Ça a été
de mon souvenir en termes de.
François, il n'a pas l'air d'accord.
J'ai le vécu. Je peux vous dire une chose que j'ai vécu. La négociation et les signatures des actes dans la nuit tardive. Je peux dire, ce n'est pas du tout comme ça. Donc c'est. Alors, on ne peut pas rentrer dans certains détails, mais.
Ça n'a pas duré des semaines, voilà. C'était, moi, j'ai le souvenir.
La négociation de départ de Marseille
Non, pas avec Marseille, moi, avec Noël Le Graët.
La chose extraordinaire d'arriver à l'équipe de France, c'est fait d'une manière assez éclatante parce qu'il y a cette situation qui se présente, Didier Deschamps est libre, et là, Noël Le Graët dit bon, très vite. Voilà. On a travaillé. Je vais vous raconter une anecdote qui est assez drôle, mais bon, peut-être Didier va se fâcher avec moi. Les choses allaient tellement vite, c'est que quand il était à Paris, il a fallu aller acheter des chemises et des culottes. Parce que il était, voilà. Et que ce soit Monsieur Deschamps, mais aussi Monsieur Bernès. Donc, pour rester sur Paris et poursuivre les négociations et le travail qui s'est fait, il a fallu qu'ils achetaient des choses parce qu'ils étaient venus ici pour signer et après rentrer. Mais le hasard, on appelle, on se retrouve, on commence à faire des rendez-vous et par voilà une journée, deux jours et bon, il fallait prendre des vêtements. Je suis d'accord.
C'est 48 heures à peu près avec Noël Le Graët, boulevard Excelsman.
Sur une semaine.
C'était un coup de foudre.
L'amour. Je peux vous dire que il y a des amours qui marchent bien parce que vu le résultat, parfois il faut croire au coup de
foudre. Oui, enfin en général, quand on parle d'amour, on parle pas forcément de contrats de 45 pages qui sont négociés pendant 48 heures. Pardon.
Le mariage, ça.
Alors, la chose qui est assez extraordinaire, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, Monsieur Le Graët est une personne qui a une vision à 300 degrés de la gestion des situations, au point que lui, il n'avait pas d'avocat et lorsque nous avons travaillé le contrat, on l'a travaillé de nos côtés avec lui, mais dans une sorte de approche extrêmement cordiale. C'était pas une guerre de défense des clauses, mais c'était des clauses que j'appellerais d'apaisement, dans lesquelles on cherchait le meilleur pour tout le monde. Mais attendez, l'équipe de France, c'est une chose. Oui. Ça n'a rien à voir que la négociation d'un contrat d'un club.
Justement.
C'est pas la même chose.
Prenons le cas d'un club lambda. Quand vous arrivez avec un joueur et qu'il faut négocier le contrat, donc j'imagine que vous, évidemment, vous relisez tout ligne par ligne, vous renégociez certaines clauses sans doute. Bon. Combien de temps ça prend entre le moment où la première rencontre entre vous et le club on va dire la conclusion du deal et la signature?
La rédaction d'un contrat est un point d'achèvement de longs échanges qui sont faits avant. En réalité, l'instrumentum qu'on appelle le papier, d'abord nous avons un formalisme en France, nous avons un formulaire, après on met les clauses dedans et on remplit. Après, il y a les clauses spécifiques. Vous prenez un contrat comme celui de Neymar, ne se fait pas en deux jours. C'est un contrat qui est long, laborieux. les contrats que j'ai eu à travailler, c'est du travail de 72 heures de travail de rédaction.
Et c'est quoi ces fameuses clauses dont on parle sous sein privé? Alors des fois on dit ça compte pas.
Alors et c'est une remarque tout à fait intéressante. Vous avez un contrat qui est le formulaire de la Ligue professionnelle de football. Ce formulaire-là, on le remplit et c'est celui qui permet l'homologation. Vous ne pouvez.
Il y a quoi sur ce contrat?
C'est tout l'ensemble des clauses et conditions. Okay. Et il est parfaitement possible de compléter. Alors là, il y a toute une discussion juridique que, bon, on va pas ennuyer les téléspectateurs. Est-ce que ce sont des contre-lettres ou des compléments? La Cour de cassation, en matière judiciaire, en termes de droit social, dit qu'à partir du moment qu'il n'y a pas de contradiction, mais nous sommes dans un prolongement, ces clauses et conditions viennent compléter. Mmh. Et en réalité, on dit que si ces clauses et conditions sont contraires, elles sont nulles du côté de l'AFP. Donc ça veut dire qu'en réalité, il y a le contrat officiel qui est déposé à la Ligue, et ensuite, il est parfaitement possible de rédiger des clauses et conditions complémentaires.
Mais est-ce qu'elles peuvent être contraires à ce qu'il y a dans le contrat?
Non, c'est ça. Il ne faut pas qu'elles soient des contre-lettres.
Non, complémentaires. Mmh.
La complémentarité, ce n'est pas une contradiction, ce sont deux choses différentes. La contre-lettre, c'est je fais voir un contrat apparent, et puis je fais une contre-lettre, quelque chose qui dit exactement le contraire. Ah. Là, c'est...
Quand l'UNFP condamne les contrats sous sein privé, alors l'OGC Nice a l'habitude de faire ça par exemple, il n'est pas... ça sert à rien, en fait.
Ça sert à rien. Juridiquement parlant, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties. À partir du moment que vous signez une convention, à partir du moment qu'il n'y a pas de contradiction, en droit français, en termes de droit social, parce que n'oublions pas que le contrat liant un joueur et son club est un contrat de travail, mm-hmm. n'est pas un contrat de prestation, l'ensemble des clauses et conditions complètent le contrat d'une manière harmonieuse, sauf, et s'il y a contradiction, on recherchera la stipulation qui est favorable aux salariés, qui va primer sous celle de l'employeur. Ça veut dire que de toute façon, et c'est ça la logique dans la manière de voir les choses.
Alors pourquoi ces fameux contrats sous sein privé, aujourd'hui, sont devenus quasiment la norme? Parce qu'on les utilise pour faire passer des petits trucs
On les utilise parce que aujourd'hui...
Des primes, par exemple,
des
clauses de départ, des choses comme ça.
Le plus gros problème, c'est le côté, l'approche confidentielle des contrats. Ça veut dire que à partir du moment que vous transmettez votre contrat à la Ligue, tout le monde connaît le contenu du contrat. Eh oui. Or, quand vous prenez, et là, je le dis, c'est pas une manière d'attaquer, mais c'est la vérité. Si il faudrait que vraiment la transmission du contrat soit couverte d'une vraie confidentialité,
oui.
et pas que...
Comme ça, on peut le comprendre.
Mais ça, je défends cela.
Oui.
Alors que ce n'est pas le cas. Donc, je peux comprendre parfaitement, et je suis le premier à dire, qu'à partir du moment que certaines choses, je ne veux pas qu'elles soient connues par le public, je les mets dans un acte.
Vous voulez dire que la direction juridique de la Ligue est un peu ouverte aux 80?
Non, mais tous les ans, par exemple, dans l'équipe, on a le salaire des joueurs.
C'est pour
normal.
Cette raison que c'est
pas normal.
Alors, attention, là aussi, il y a différentes options. Soit vous avez une option dans laquelle vous dites...
Moi, je dis que c'est de l'excellent travail journalistique, mais on peut considérer que c'est pas normal.
Je vois ce que je veux dire. Oui. Les joueurs, ils n'ont pas forcément envie qu'on sache leur salaire. S'ils veulent le dévoiler, qu'ils le fassent.
Oui. Gilles Barrois, il ne veut pas qu'on sache son salaire aussi. Mais si on le dévoile...
Ce sera du bon travail journalistique.
Voilà. Merci, monsieur
Barrois. Tout dépend de la politique économique que nous voulons. Soit on fait une politique économique dans laquelle on dit les salaires du joueur d'être connus parce que ça fait partie d'une formation qui est nécessaire, en termes même, je dirais, d'équité.
Ouais, ouais.
Ou sinon, à ce moment-là, tout doit être confidentiel. À ce moment-là, il y aura la chasse qui sera faite par tel ou tel journaliste qui arrivera à avoir plus d'informations que les autres. Est-ce que c'est quelque chose de sain? Je ne sais pas.
Après, on sait que dans tous les vestiaires de football, c'est pas forcément comme dans les entreprises d'ailleurs, mais dans tous les vestiaires de football, alors le premier mois, le deuxième mois non, mais à la fin de saison, tout le monde sait le salaire des uns des autres, à peu près. Hein. Ça reste pas confidentiel bien longtemps. Et d'ailleurs, quand on va après négocier avec le président, hein, et qu'il nous disait l'année d'avant, il y a pas grand chose, hein, on a plus grand chose, mais que deux semaines après, ils ont pris un mec pour le double de ton salaire, je peux te dire que.
Oui, mais le monde du football. Le monde du football est différent du monde de l'entreprise.
Oui.
Le monde du football n'est pas construit sur une convention collective avec une grille tarifaire. C'est-à-dire que
ça devrait être le cas d'ailleurs.
Mais non, on ne doit pas être le cas.
Si
alors là, je suis absolument pas d'accord.
C'est mon avis.
Mais je vous donne mon avis d'avocat et aussi de quelqu'un qui gère quelques transferts. Si je travaille pour un entraîneur ou un joueur de football qui est considéré comme une pépite rare, ça n'a rien à voir avec un joueur qui est médiocre ou moyen.
Non, mais je parle pas des exceptions. Mais vous voyez,
c'est pas que
le Bayern Munich. Ils ont trois salaires. Le salaire des titulaires, le salaire des joueurs qui sont mi-titulaires, mi-remplaçants, le salaire des remplaçants.
Alors, excusez-moi, je vous permets de vous contredire. Je connais le Bayern de Munich parce que je suis
à part les exceptions.
Non, mais c'est pas que c'est une exception. Il y a une grille tarifaire qui est, mais après, vous avez tout un ensemble de mécanismes de primes qui modifient complètement le salaire des joueurs.
Mais au moins les primes,
Non, mais c'est sur les primes, c'est sur les compléments de salaire.
Les primes, on les gagne quand on est bon.
Après, c'est
non, mais moi, les primes, ça me plaît plus que des salaires à des joueurs qui finalement n'ont pas l'hygiène de vie nécessaire et finalement tu dois les payer pendant 4 ans alors qu'ils n'ont pas été bons. Je préfère les primes.
C'est un maquillage alors, la grille
c'est
du Bayern.
C'est-à-dire que. Non, alors, non, c'est pas
en
un maquillage.
Cas, je connais des
c'est une manière de concevoir la réussite. Pas simplement sur une valeur marchande de joueur, mais à ce qu'il va réellement apporter. Franck Ribéry est resté 12 ans au Bayern parce que il a apporté et chaque année a apporté des résultats. Et là, la décision d'y mettre fin, c'est la fin d'une carrière, la fin d'un cycle, parce que sur le plan de ce qui était l'apport de ce joueur au Bayern aujourd'hui, le chemin a été est arrivé à sa fin.
Je veux dire dans le sens que moi je trouve que c'est bien d'avoir une grille tarifaire parce que on sait que, justement, le joueur qui est remplaçant va pas demander plus que le titulaire.
Oui, mais sinon, pendant le football aujourd'hui, construire
le
une équipe...
Le football est déréglé, hein, c'est pas pour ça que...
Construire une équipe, c'est l'assemblage de personnes et d'hommes et de joueurs de... Je prends l'exemple. Vous investissez sur un joueur comme, à l'époque, c'était Ronaldo. Je prends le transfert, j'ai eu l'occasion de discuter et comprendre la psychologie d'un président. Florentino Pérez me dit, Maître Broussa, quand j'ai signé pour Ronaldo... C'est parfois plus facile que signer pour un défenseur. Pourquoi? Parce que avec Ronaldo, c'était 75 millions plus le complément, ça fait 90. J'avais 50 millions de pubs acquises entre Audi, 3 ans, les voitures, etc. Au fond, je prenais un risque de quoi? De 5 millions d'euros. 3 minutes après, je l'avais couvert parce que j'avais déjà vendu 1500.
Ouais.
Et vous prenez un joueur qui vaut 25 millions d'euros, qui n'est pas connu, mais que l'entraîneur vous dit « Ah, j'ai besoin de ce joueur-là, parce que c'est un très bon défenseur », c'est 25 millions. Je ne dis pas que ces 25 millions font perdu, mais c'est 25 millions dont le retour sur investissement, ça sera après l'issue des matchs, mais, ou du joueur.
Messieurs, petite pause. On va enfin pouvoir aborder notre histoire de joueurs qui sèchent les entraînements dans quelques instants. C'est très intéressant, hein, ce qu'on se dit là. D'ailleurs, il y a beaucoup de réactions que je vous lirai sur Direct Studio. Mais d'abord, il faut qu'on retourne à Wimbledon. Il se passe plein de choses dans la finale du double avec la doublette française Mahut, Roger Vasselin, Eric Salio.
C'est un match totalement insensé ici sur le Center Court. On est à 4-3 au troisième, au cinquième, pardon, pour Kamal Farah. Mais il y a 0-40 sur la mise en jeu d'Edouard Roger Vasselin. Pourquoi? Parce que Nicolas Mahut a été canardé, mais à deux reprises, coup sur coup. Et c'est la troisième fois depuis le début de la rencontre. Première fois, c'était au niveau du front et de l'œil gauche. Et là, il a pris deux balles, mais coup sur coup. Alors, je sais pas si c'est volontaire. C'est aussi le jeu du double, effectivement. Mais le pauvre Nico, là, il est en train de vivre un véritable calvaire.
Oui, surtout qu'il a pris la balle là où il fallait pas la prendre, quoi.
La deuxième, oui. Mais là voilà, là, il s'y prend sa revanche. C'est à lui de viser le Colombien. Mais c'est
du chamboule tout. C'est pas les mecs qui se visent.
C'est incroyable, ce double.
Ah, c'est pas bon.
Mais,
ça.
Œil pour œil, dent pour dent. Mais il y a encore une menace pour les Bleus, puisqu'ils sont menés, donc, je vous le rappelle, 4-3.
C'est un match de boxe.
15-40. C'est un match absolument insensé. Moi, je crois que j'ai jamais vu ça. Bien, dans les fesses pour Cabal ou Farah, je sais pas.
Pampan cucu, comme dirait Jérôme Bretagne.
Pampan cucu, ouais. Mais il y a 15-40.
Pampan, hein, surtout.
Allez, à tout de suite. On se retrouve avec Maître Broussa pour continuer le débat. Le 32-16 est ouvert. Hein. Si vous avez des questions à lui poser, participez à notre débat. On vous attend. N'oubliez pas qu'Alain Giresse sera également avec nous dans une grosse demi-heure dans l'after.
RMC, l'after foot.
This is the sound of a man who unexpectedly fell into cold water and instinctively is trying to swim hard. This is the sound of the cold water shock making him gasp uncontrollably and breathe in water until he drowns. Whereas this is the sound of a man who fell into cold water and knows how to survive. You have to fight your instinct to swim and just float until the cold water shock has passed and you can control your breathing. This is a safety message from the RNLI. Float to live. Visit respectthewater.com.